VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdelrahman Dia avec vous pour cette édition de 19h30. On est mardi 2 janvier 2018. Au sommaire, le président ougandais Yoweri Museveni a ratifié la loi supprimant la limite d'âge pour devenir président, ce qui lui ouvre la voie pour une nouvelle candidature en 2021. Polémique en RDC sur le nombre exact des victimes de la répression des manifestations anti-Kabila du 31 décembre.
C'est vrai que du côté officiel, on parle de 4 morts et du côté de l'organisateur de la manifestation, on parle de plus de 10. Ce qui est important, c'est le message. Est-ce que, de part et d'autre, on a saisi le sens profond du message ?
Nouvelle vidéo du chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, qui revendique les dernières attaques dans le nord-est du Nigeria. Manifestation en Iran, le régime de Téhéran s'en prend au président Trump et aux ennemis de l'Iran, selon leurs propres termes. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Combien de victimes y a-t-il eu en République démocratique du Congo dans la répression dimanche des manifestations anti-Kabila ? Ce mardi, la question fait polémique alors que le calme est de retour à Kinshasa. Solange Nyamulisa.
Jonas Tchombela, un porte-parole des organisateurs, a déclaré qu'au total 12 personnes ont été tuées, 11 à Kinshasa et 1 à Kananga dans le centre du pays. Selon un communiqué du secrétariat général des Nations Unies, la violente répression de ces marches a occasionné la mort d'au moins 5 personnes, plusieurs blessés et l'arrestation de plus de 120 personnes. Ce bilan revoit à la baisse un premier bilan de 8 morts donné dimanche par des sources onusiennes à Kinshasa. Selon le communiqué de la police, aucun mort n'a été enregistré en marge de ces marches. Dimanche, le porte-parole de la police avait indiqué que 3 civils, des pillards et des bandits, et non des manifestants, avaient trouvé la mort non loin des lieux de manifestation. De son côté, le gouvernement fait état d'un policier tué le même jour dans l'attaque d'un commissariat de police. Dimanche, des marches de catholiques exigeant l'application d'un accord de sortie de crise, signé le 31 décembre 2016 entre la majorité et l'opposition sous l'égide des évêques catholiques, ont été réprimées par les forces de sécurité.
Et nous y reviendrons dans la partie magazine. Et puis, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo Passinga, a qualifié de barbarie la répression par les forces de sécurité de la marche pacifique et non violente des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Toujours en RDC, 3 présumés miliciens Kamuina Nsapu ont été tués dans des combats avec des militaires près de l'aéroport de Kananga, dans le Kasaï. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus près de l'aéroport, qui a d'ailleurs été fermé, selon des témoins interrogés par l'AFP. Au Nigeria, Aboubakar Shekau refait parler de lui dans une vidéo. Le chef historique du groupe Boko Haram a revendiqué les dernières attaques commises dans le nord-est du pays. Bagasikura.
C'est la première vidéo depuis le mois d'août d'Aboubakar Shekau s'exprimant en arabe puis en langue haoussa. Il a déclaré, je cite, « Nous sommes en bonne santé et rien ne nous est arrivé ». Le leader du groupe qui continue de semer le chaos dans toute la région du lac Tchad reconnaît avoir mené les attaques sur Maïdougouri, à Gambori et à Damboa. Nous revendiquons toutes ces attaques, a-t-il ajouté. Les attentats suicides, les raids sur les villages, les villes et les postes militaires se sont multipliés ces 2 derniers mois. Toutefois, malgré une évidente résurgence des violences, Shekau, habillé d'une longue tunique blanche et d'un kefia noir et blanc, apparaît fébrile et peine à lire ses notes. Le conflit qui a éclaté en 2009 après la mort du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf, a fait plus de 20 000 morts, plus de 2 millions de déplacés. Le nord-est du Nigeria fait face à une très grave crise humanitaire et alimentaire.
Au moins 14 personnes qui revenaient d'une messe de minuit célébrée à Port Harcourt dans le sud du Nigeria ont été tués par des hommes armés. La fusillade a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, à environ 90 km de Port Harcourt, grand centre pétrolier et capitale de l'état de Rivers. Au Cameroun, l'ex-maire de Fotokol dans l'extrême nord du pays n'a toujours pas été libéré selon son avocat. Moussa Ramat a été interpellé en septembre 2014 pour des soupçons de complicité avec le groupe djihadiste Boko Haram. Il a été acquitté le 28 décembre dernier. L'ancien maire de Fotokol était accusé d'avoir fourni des armes à Boko Haram et aidé à la commercialisation du produit des pillages des combattants du groupe djihadiste qui attaque fréquemment des localités du nord du Cameroun. Plus de limitations d'âge pour être candidat à la présidentielle en Ouganda. Yoweri Museveni a ratifié la loi supprimant la limite d'âge pour accéder à la magistrature suprême. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Cette réforme constitutionnelle controversée qui supprime l'âge limite fixé auparavant à 75 ans pour être élu président a été adoptée le 20 décembre par le Parlement dominé par le parti au pouvoir. Le texte réintroduit par contre une limite au nombre de mandats présidentiels qui avait été supprimée en 2005. Ce qui pourrait permettre à M. Museveni, 75 ans, et au pouvoir depuis 1986, d'être à nouveau candidat. C'est un plan bien orchestré pour avoir Museveni au pouvoir à vie, a réagi le chef de l'opposition Kizza Besigye. Cette loi prévoit également que le mandat des députés soit allongé de 2 ans, passant de 5 à 7 années désormais. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, permettant alors à Yoweri Museveni de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump estime que les sanctions imposées à la Corée du Nord commencent à avoir un impact, mettant en avant l'ouverture de son leader Kim Jong-un en direction de Séoul. L'homme fusé veut maintenant parler à la Corée du Sud pour la première fois. Peut-être que c'est une bonne nouvelle, peut-être pas, nous verrons, a indiqué le président Trump. Par ailleurs, Donald Trump a dénoncé le régime brutal et corrompu au pouvoir en Iran, au 6e jour d'un mouvement de contestation marqué par des violences. Nathalie Barsch.
Les Iraniens agissent enfin contre le régime brutal et corrompu, a lancé Donald Trump dans un tweet matinal. Lundi, il avait estimé que le temps du changement était venu dans ce pays, dont il dénonce régulièrement le comportement depuis son arrivée au pouvoir. 21 personnes ont été tuées depuis le début des rassemblements en Iran contre les difficultés économiques et le pouvoir. Dénonçant une nouvelle fois l'accord conclu en 2015 par Barack Obama avec Téhéran sur son programme nucléaire, M. Trump a estimé que l'ex-président avait bêtement donné, selon ses termes, au régime des fonds qui sont allés au terrorisme et dans leur poche, a-t-il dit. L'ayatollah Ali Khamenei est sorti de son silence ce mardi pour accuser les ennemis de l'Iran de s'unir pour porter atteinte au régime.
La France, qui par ailleurs exprime sa préoccupation face au nombre important des victimes et des arrestations en Iran. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères assure que les autorités françaises suivent avec attention la situation en Iran. Le droit de manifester librement est un droit fondamental. Il en va de même de la libre circulation de l'information. Le Parlement israélien a adopté un projet de loi visant à compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix. Le texte approuvé à 64 voix contre 51 éloigne davantage les espoirs d'une solution à 2 États dans le conflit israélo-palestinien. L'adoption de cette loi intervient quelques jours après le vote du comité central du Likoud, le parti du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'une résolution demandant à ses parlementaires de pousser en faveur de l'annexion des colonies de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 50 ans. Les 3 postes frontières entre l'Iran et l'Irak situés dans la région autonome du Kurdistan irakien ont été rouvertes ce mardi. Ils avaient été fermés par Téhéran à la demande de Bagdad après la tenue fin septembre d'un référendum d'indépendance dans le Kurdistan irakien auquel les 2 pays étaient fermement opposés. Et puis l'année 2017 a été la plus sûre pour le transport aérien mondial depuis 1946, avec un total de 10 accidents impliquant des avions de transport de passagers civils qui ont fait 44 morts. C'est ce qu'a indiqué l'Aviation Safety Network, un site spécialisé dans ce type de catastrophe. Et selon l'ASN, et avait eu un total de 16 accidents pour 303 civils victimes en 2016. Les statistiques de l'ASN ne concernent toutefois pas les vols militaires. L'accident du 7 juin dernier impliquant un avion de transport militaire de l'armée birmane qui a fait 122 morts n'est ainsi pas inclus dans ces statistiques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Arzuma Compaoré.
En RDC, après trois jours d'interruption décidée par le gouvernement à la veille des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, l'Internet a été finalement rétabli dans la nuit de lundi à mardi. Vendredi, le ministre congolais des Postes, Téléphones et Télécommunications, Emery Okundji, avait instruit les opérateurs de téléphones mobiles de couper l'Internet et le système de SMS pour des raisons de sécurité d'État à partir de samedi à 18h. Les coupures d'Internet sont courantes en RDC lors des manifestations contre le pouvoir. Mise en circulation de nouveaux billets de la monnaie nationale en Mauritanie, l'ouguiya. Depuis le 1er janvier 2018, 10 ouguiyas deviennent un ouguiya. Dans les rues, les personnes déjà servies examinaient les nouveaux billets fabriqués en polymère, les tournant et les retournant, contemplant leurs couleurs vives et testant leur solidité tant vantée par la banque centrale. Les ouguiyas neufs étaient disponibles dès minuit dans certains distributeurs automatiques. Les anciens billets et pièces seront retirés selon un calendrier établi par la BCM, en commençant par les plus gros, comme les billets de 5 000, soit 11,76 euros, d'ici le 31 janvier, ceux de 2 000 et 1 000, respectivement un et deux mois plus tard, les plus petites coupures d'ici juin. En 2004, la Mauritanie avait remplacé tous les billets en circulation depuis 1974. Le fondateur du groupe Econet, Strive Masiwiya, qualifié d'homme le plus riche de Zimbabwe, plus de 600 millions de dollars en 2016 selon Forbes, est en discussion avec l'opérateur établi au Luxembourg, Millicom, pour l'achat de ses filiales en Tanzanie, au Rwanda et au Tchad.
Et on démarre cette page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, rebonsoir.
Rebonsoir, Abdourahmane.
La CAF augmente ses officiels de match.
Tout à fait, Abdourahmane. À partir de ce mois de janvier 2018, la Confédération africaine de football a fait part d'une augmentation de 50% des paiements des arbitres, assistants, officiers de médias et commissaires de match. Désormais, les arbitres centraux et assistants émargeront 1 125 $ contre 750 précédemment. 750 $ pour les assesseurs et 1 200 $ pour les coordinateurs généraux de match. C'est également la même somme de 1 200 $ que percevront désormais les officiers médias et les commissaires de match.
J'espère que ça ne donne pas des idées à certains ici pour aller devenir officiel à la CAF.
Pourquoi pas?
On passe au Maroc qui a bénéficié des éloges du sélectionneur espagnol.
Alors qu'il va croiser la sélection du royaume chérifien dans le groupe B de la Coupe du Monde 2018, le technicien espagnol Julen Lopetegu a indiqué que les Lions de l'Atlas sont loin d'être une équipe facile. Avec leur nouveau coach, ils sont revenus en force et ont de bons joueurs, a déclaré le technicien espagnol, ajoutant que le Portugal est leur plus grand adversaire dans ce groupe.
Une procédure disciplinaire a été engagée contre Arsène Wenger.
L'entraîneur d'Arsenal est sous le coup d'une procédure disciplinaire pour son coup de sang envers l'arbitre lors du match nul contre West Bromwich. Wenger s'était emporté contre Mike Dean, après un pénalty sifflé contre son équipe en toute fin de match. Il est poursuivi pour un langage ou un comportement inapproprié. Après la rencontre, le technicien français a jusqu'à vendredi 18h pour s'expliquer.
Et on termine par Neymar, le footballeur brésilien qui remporte le Samba d'or en 2017.
C'est un titre qui récompense le meilleur joueur brésilien de l'année écoulée, décerné par le site Samba Foot. L'attaquant transféré durant l'été du Barça au PSG a recueilli un peu plus de 27% des suffrages. Il a devancé le vainqueur en 2016, Philippe Coutinho, ainsi que Marcelo du Real Madrid. C'est la troisième fois, il faut le dire, que Neymar remporte ce trophée après 2014 et 2015.
Vous savez danser la samba?
Non, je vois esquisser quelque part dedans souvent, mais je pense que je peux quand même essayer et puis je vais y arriver, quoi.
Voilà. Donc, merci beaucoup, Yacouba, pour cette édition des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. En République démocratique du Congo, l'heure est au compte et aux appels après la marche des catholiques réprimée dimanche dans le pays. Le Vatican, les Nations Unies et la francophonie sont parmi ceux qui dénoncent la violence utilisée dans certains cas dans des églises. Pour une analyse, Eddie Sango a joint à Kinshasa l'éditeur de La Prospérité, un journal indépendant paraissant dans la capitale congolaise. Il s'agit de Marcel Ngoyi.
C'est vrai que du côté officiel, on parle de 4 morts. Et du côté des organisateurs de la manifestation, on parle de plus de 10. Ce qui est important, c'est le message. Est-ce que, de part et d'autre, on a saisi le sens profond du message transmis à travers toutes ces manifestations? À mon avis, je ne pense pas. Parce que si vous suivez très bien le discours du président Kabila, vous rendrez à l'évidence. Il considère tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont appelé à ces manifestations comme des fossoyeurs du processus électoral. Et de l'autre côté, la méfiance s'est installée à tel point que, du côté du rassemblement, on considère que depuis le 31 décembre à minuit, c'est fini l'ère du règne du président Kabila. Pour les leaders du rassemblement, on entre dans une sorte de perte de légitimité et de légalité. Donc, si vous voyez bien ce tableau-là, d'un côté, le président Kabila qui fonce et qui estime qu'il détient le pouvoir et il va continuer à diriger, et de l'autre, vous avez ceux qui le contestent, et donc vous comprenez qu'il y a rupture du consensus qui avait été scellé le 31 décembre 2016 au 132-16 sous la barre des évêques. Et dans un tel climat, il est difficile d'espérer qu'un jour on organiserait des élections apaisées et que le transfert pacifique et démocratique du pouvoir pourrait se faire. Et en même temps, il faut considérer que l'accord scellé est un accord qui pose maintenant problème parce que l'accord lui-même est devenu un accord caduque.
Voulez-vous dire que les pouvoirs continueraient à entretenir ces climats pour que finalement il n'y ait pas d'élection?
Je ne pense pas que ça soit forcément l'objet d'une orientation politique à déclarer à haute voix. Mais tout compte fait, ce qu'il faut retenir est que s'il y a un nouveau gap dans l'organisation, un quelconque retard dans l'organisation des élections, ça pourrait profiter naturellement au pouvoir en place. Et le fait pour l'Église d'intégrer ce type de combat avec les laïcs catholiques peut aussi changer la donne.
Vous avez parlé d'Église, mais les évangélistes et les protestants sont restés à l'écart de ces manifestations. Ne pensez-vous que les politiques ont réussi à diviser l'Église en RDC?
Ils ont exprimé un avis contraire contre la marche, mais ils ne disent pas de contraire pour les biens du Congo, pour les biens des Congolais. Peut-être la façon d'exprimer les ras-le-bol qui étaient exprimés, c'est possible qu'il y ait une divergence de vues, mais le contenu du message, en ce qui concerne les élections, en ce qui concerne l'organisation du changement, cette organisation-là, je ne pense pas qu'il y ait une divergence fondamentale.
C'était Marcel Ngoyi, l'éditeur du journal La Prospérité, joint à Kinshasa.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Stupeur et indignation depuis jeudi à Bamako à la suite du décès d'une standardiste de la présidence du Mali. Fanta Sekou, 27 ans, a été agressée sur son lieu de travail par son mari. Aussitôt, les jeunes Maliens ont relayé l'information sur les réseaux sociaux et depuis, les associations et ONG de lutte contre les violences faites aux femmes montent au créneau. Eki Abadou a joint à Bamako Rokiatou Diakité, conseillère conjugale.
Bon, je l'ai appris sur les réseaux sociaux, comme j'ai des connaissances là où elle travaillait, donc je me suis renseignée pour être sûre que c'est la vérité, que ce n'est pas encore de fausses informations. Quand j'ai eu la confirmation, j'ai été indignée comme tout le monde.
Alors, vous avez été indignée comme tout le monde. De nombreuses associations et ONG de lutte contre les violences féminines et conjugales se sont insurgées. Quelle est votre réaction à la suite de cet assassinat?
Le système que nous avons ici au Mali, dans le cadre de la préservation du mariage, est un peu trop poussé par rapport au contexte actuelle, de l'évolution des choses. Il y a beaucoup de pressions pour que tu restes dans ton mariage, quel en soit le prix. Les gens ne cherchent pas à savoir comment ça se passe. On te demande toujours de supporter. Ça va passer. Le mariage, il faut maintenant qu'on sache que ce n'est pas une obligation.
Alors le mariage n'est pas une obligation, vous dites. Que faire dès lors qu'on sent des signes d'agression envers une femme? Qu'est-ce que les familles, qu'est-ce que les témoins peuvent faire?
Il y a une responsabilité vraiment de la société. Tout le monde est au courant, mais tout le monde est silencieux. Et quand tu en parles, on ne prend pas de mesures vraiment concrètes pour que ça puisse suffire. On veut toujours réconcilier à l'amiable, on veut toujours réconcilier entre familles et les coups continuent. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de décisions vraiment concrètes pour vraiment dissuader les hommes, pour que cette situation puisse être vraiment bannie, quoi. Vraiment, je crois que ça va être difficile de mettre ça en place.
Le fait que cette histoire ait été médiatisée, est-ce que vous pensez que ça va aider à faire changer les choses?
Énormément. Ça arrive très, très souvent. Mais comme cette situation, c'est dans les zones reculées, c'est au niveau des personnes qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, ça reste comme ça. Ça, c'est un grand point pour les femmes et un grand point contre la violence sur les femmes. Parce que ça permet aux uns aux autres de savoir que ce n'est pas une légende, ce n'est pas un conte, ce n'est pas parce que les femmes veulent prendre la place des hommes, ce n'est pas une lutte contre l'égalité. C'est un fait réel qui est là, un abus de pouvoir, un abus de force dont les femmes sont victimes.
C'était Rokiatou Diakité, conseillère conjugale à Bamako.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Plus de 800 000 personnes dans le monde meurent chaque année de l'eau insalubre, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé. Mais des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, ont mis au point un dispositif simple et peu coûteux pour traiter de l'eau contaminée, comme l'explique Kevin Enoch de la VOA dans ce reportage relaté par Jacques Aristide.
Le canal de Gowanus à Brooklyn, dans l'État de New York, est considéré comme l'un des plus pollués du monde. C'est un mélange toxique de polluants qui se déverse dans ce canal, vieux de plus de 150 ans, métaux lourds, pesticides et eaux usées. Mais des scientifiques du MIT de Boston planchent sur le traitement de cette eau, tout simplement en ayant recours aux conduites électriques. Xiao Su est chercheur au MIT.
In red, we have the positive electrode.
En rouge, c'est l'électrode positive et en vert, l'électrode négative. Dans le noyau cellulaire, nous voyons les particules polluantes. Nos électrodes entrent en contact avec l'eau et en absorbent les polluants, ce qui entraîne le bahut magnétique à agiter.
Mais ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Les électrodes sont recouvertes de polymères spéciaux qui ciblent chaque polluant et c'est cela qui rend ce procédé si unique. Alain Aton du même institut.
Bien qu'il y ait de nombreux types de dispositifs de séparation basés sur les forces motrices de l'électricité, ils n'ont pas les caractéristiques dont nous avons besoin, car incapables d'absorber les micropolluants à très faible concentration. Donc, notre idée était de pouvoir couvrir les électrodes des polymères et de les recharger afin qu'elles soient capables, par exemple, d'extraire une molécule spécifique d'un contaminant organique à partir des centaines d'autres molécules. Si nous pouvons le faire de manière sélective, ça sera les gros lots. C'est ce que nous avons mis au point.
Non seulement l'eau est propre, mais le dispositif lui-même est plus écologique que les méthodes de traitement actuelles qui utilisent la chaleur, la haute pression ou même des produits chimiques. Alain Aton, à nouveau.
Et ce que nous aimerions faire, c'est avoir une technologie qui permettrait de basculer l'interrupteur, qui permettrait à son tour d'extirper les polluants et de régénérer les systèmes.
Les chercheurs croient que ce dispositif de traitement d'eau peut vite aller au-delà des tests de laboratoire pour être utilisé dans la vie de tous les jours.
Majus. Tayari. Manata kunyuwa. Minafanya nini. Miwabo. Bananyona muwa. Kuhunja kutafuna. Sukari.
Voilà, on se quitte sur cette belle musique choisie par mon producteur du jour, Sims Lumami. Merci également à Bill Barbe qui était à la console, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Chukinjo ya bokazi Famiye tu ba masikini Imona muka nifanini Wakati babangu alikufa Niringi ya bundumba Mubundumba napata mapendo Mapendo naleta bukweri Bukweri naleta batoto mapango na mfura Nyate Bantu muyale Bantu muyale Manata kunyua na
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis appuient les forces de l'ordre du Sénégal à travers un don de matériel non létal à la police nationale de ce pays. Lors d'une cérémonie le 20 décembre à l'Académie nationale de la police sénégalaise, l'ambassadeur américain au Sénégal, Tulina Bomushingi, a déclaré que les États-Unis comptaient sur le Sénégal comme partenaire crucial dans la région et sur la police comme un rempart vital. Le terrorisme reste un fléau que nous devons continuer à combattre et ce matériel constitué d'ordinateurs, de projecteurs, des lunettes de vision nocturne, de kits de scène de crime et d'équipements de protection apportera un soutien supplémentaire à la mission de la police nationale. Il a noté récemment que le bureau régional de la sécurité de l'ambassade et le bureau du contre-terrorisme et de la lutte contre l'extrémisme violent du département d'État ont récemment conclu une série de formations contre le terrorisme. Elle visait à aider à mieux protéger les cibles vulnérables par une assistance à la communauté des forces de l'ordre sénégalaises et des premiers intervenants, y compris le mécanisme inter-institution de coordination des opérations antiterroristes établi par décret présidentiel l'année dernière. Au total, environ 110 personnes ont bénéficié des récentes formations fournies dans le cadre d'un engagement significatif des États-Unis en faveur du Sénégal. Le dernier don américain d'une valeur de près d'un demi-milliard de francs constitue une contribution significative au partenariat en cours. Paraphrasant les propos du président sénégalais Macky Sall lors du Forum pour la paix et de la sécurité, l'ambassadeur Mushingi a déclaré que la nécessité des solutions intégrées dans la région a été soulignée. La formation et l'équipement sont au cœur de la solution intégrée et nous sommes heureux de fournir cet équipement protecteur et didactique au gouvernement du Sénégal dans la recherche des solutions intégrées.
À cette fin, nous sommes heureux de renforcer la police et en particulier tous les premiers intervenants dont nous dépendons pour l'action en cas de trouble ou d'attaque délibérée, a déclaré l'ambassadeur Mushingi. À nos amis de la police nationale et aux autres services de sécurité sénégalais, merci pour votre aide. Nous espérons que cet équipement vous aidera dans votre mission.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.